L'Haïti et des Amériques sur RFI, c'est avec Anne Verdaguet. Bonjour.
Bonjour Edmond, bonjour à tous. Donald Trump, positif au Covid-19. Une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe aux États-Unis à un mois de l'élection présidentielle. Son rival démocrate Joe Biden lui souhaite un prompt rétablissement. On verra dans un instant comment réagit la presse américaine. On parlera aussi du changement de tactique dans les rangs démocrates concernant le vote par correspondance. Et puis on entendra l'enquête de Thomas Harms au Texas sur le pétrole qui est un enjeu de cette présidentielle. Et puis au Canada, pour finir, la guerre du homard aura-t-elle lieu? Des pêcheurs défient la loi en vigueur et prolonge la période de pêche après la fin de la saison. Pascal Guéricola nous expliquera tout ça. Les campagnes présidentielles américaines sont très régulièrement marquées au mois d'octobre par un événement qui bouleverse la campagne. Bonjour Marie Normand.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Ce qui est appelé là-bas la surprise d'octobre. La voilà, et non des moindres, Marie, Donald Trump annonce qu'il est positif au coronavirus.
Oui, il l'a annoncé dans un tweet en pleine nuit aux États-Unis, juste avant 1h du matin. Lui et sa femme Melania sont positifs et donc placés en quarantaine à la Maison-Blanche. Le couple présidentiel avait été testé après la révélation d'un test positif de l'une de ses très proches collaboratrices, Hope Hicks, qui a voyagé avec lui toute la semaine dans l'avion Air Force One. À 74 ans, le président américain, qui souffre aussi d'obésité selon son dernier bilan médical, fait partie donc des catégories de personnes à risque. Mais le médecin de la Maison-Blanche assure qu'il va bien, qu'il est étroitement surveillé et qu'il va assumer ses fonctions sans perturbation pendant sa convalescence. L'annonce, vous le disiez, a fait l'effet d'une bombe. Les places boursières sont dans le rouge, car ce test positif affecte bien entendu la campagne présidentielle dans sa dernière ligne droite. Tous les déplacements de Donald Trump sont suspendus, notamment celui prévu aujourd'hui en Floride, un état clé pour sa réélection.
Merci beaucoup Marie Normand. Et je le disais, son rival, le candidat démocrate à la Maison-Blanche, a réagi ce vendredi souhaitant un prompt rétablissement à Donald et Melania Trump. Bonjour Harim Lipold.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
La revue de presse des Amériques, Donald Trump est donc positif, la première dame aussi. Cette nouvelle fait bien sûr la une des journaux ce matin.
Oui, avec cette question Anne, à laquelle il est encore trop tôt pour répondre, quelle influence la contamination au coronavirus aura-t-elle sur la campagne du président? Ce qui est sûr, selon le Washington Post, c'est que la quarantaine obligera Donald Trump, on vient d'entendre, à annuler les réunions publiques prévues dans les jours qui viennent, à suspendre donc la campagne sur le terrain. Or, c'est justement sur le contact avec les Américains que le président sortant comptait pour remonter dans les sondages, des sondages qui sont, que ce soit au niveau national ou dans plusieurs États clés, plutôt favorables au candidat démocrate Joe Biden. Mais la campagne de Donald Trump se trouve aussi confrontée à un autre défi. Selon le Washington Post, le président ne cesse de marteler qu'il a bien géré la crise du Covid et que cette crise sera bientôt passée. Et ce message est au cœur, Anne, de sa communication électorale. Mais le chef de la Maison-Blanche, devenu lui-même une victime du coronavirus, eh bien, ce discours, disons que tout va bien se passer, eh bien, il est contredit par la contamination du président.
Alors, est-ce que le président américain va tomber malade? Comment supportera-t-il ou pas l'infection? C'est l'autre question qui revient sans cesse ce matin dans les commentaires.
Oui, pour le site d'information The Hill, par exemple, le tweet que Donald Trump a posté environ 1h du matin révélant sa contamination a eu effectivement l'effet d'une bombe qui risque de chambouler la campagne et peut-être aussi les élections. The Hill rappelle que Donald Trump est clairement dans la catégorie des personnes à risque à 74 ans et en surpoids. Il y a plusieurs scénarios possibles. Anne, Donald Trump, qui pour l'instant ne présente pas de symptômes, eh bien, il guérit du virus et il sera donc de retour dans quelques semaines. Mais si son état s'aggrave, il pourrait invoquer une clause du 25e amendement et transférer le pouvoir temporairement au vice-président Mike Pence. En tout cas, le doute plane sur l'organisation des deux autres débats présidentiels prévus les 15 et le 22 octobre, sans parler d'une autre question concernant cette fois-ci le rival Joe Biden. Est-ce qu'il aurait pu être contaminé lors du premier débat avec Donald Trump? C'était mardi dernier.
On reste encore aux États-Unis, à rime avec la campagne présidentielle. Les démocrates sont en train de changer leur stratégie sur le vote par correspondance.
C'est allié dans le New York Times. Jusqu'à présent, vous savez, les démocrates demandaient à leurs électeurs de ne pas se déplacer dans les bureaux de vote et de privilégier le vote par correspondance pour des raisons sanitaires. Mais face à l'insistance de Donald Trump qui prédit des fraudes massives liées au vote par correspondance sans en fournir les preuves, eh bien les démocrates changent leur stratégie effectivement dans certains États comme la Pennsylvanie ou encore le Wisconsin. Ils recommandent à présent à leurs électeurs de se déplacer dans le bureau de vote et de mettre le bulletin dans l'urne. Tout cela en respectant bien sûr les règles d'hygiène de base. Une approche qui commence à gagner du terrain aussi dans le Wisconsin. À la différence de ses initiatives locales, le Parti démocrate au niveau national reste pour l'instant sur sa position initiale, c'est-à-dire privilégier le vote par correspondance. Mais les responsables démocrates ont modifié leur stratégie dans un autre domaine. Après avoir opté pour une communication largement virtuelle auprès des électeurs, eh bien les bénévoles seront à nouveau envoyé sur le terrain à partir de ce week-end pour faire du porte-à-porte, notamment dans les États clés comme le Michigan ou encore la Pennsylvanie.
Restez avec nous, Arim. On parle encore de cette campagne électorale aux États-Unis avec l'un des piliers de l'économie, le pétrole, qui est toujours au plus mal depuis la chute du prix du baril due à la guerre commerciale entre la Russie et l'Arabie Saoudite, mais aussi en raison de la crise sanitaire et la baisse de la consommation. Alors, quelles sont les alternatives pour le secteur de l'énergie américaine? À un mois de la présidentielle, le sujet est brûlant. On écoute l'enquête de Thomas Harms au Texas, l'état de l'or noir.
Depuis mars et l'arrivée du coronavirus au Texas, 14% des salariés de l'industrie fossile ont été licenciés, comme 10% de ceux qui travaillent dans les énergies renouvelables. Mais au moins un tiers d'entre eux ont déjà été réembauchés, car les énergies vertes sont en pointe au Texas. Frank Turmel-Josek est le responsable du développement commercial pour Storengie, une filiale de l'entreprise française Engie à Houston.
Au Texas, c'était dans le deuxième état niveau production de biogaz, dans un des principaux états en production d'éolien. Le solaire est en train de décoller de façon très importante. Sur la géothermie, aujourd'hui, tu as Thermal Energy Partner basé à Austin. Et eux, leur idée, c'est d'exploiter les forages qui ont été faits pour le pétrole et s'en servir pour faire de la géothermie. Cette énergie géothermique profonde, haute température, permet de produire de la vapeur. Et cette vapeur est utilisée dans des turbines pour produire de l'électricité. Avec la géothermie, je peux produire de l'électricité 24 heures sur 24, comme avec de l'hydraulique. Le Texas paraît conservateur et ne rien faire sur l'énergie alors qu'ils avancent. Il y a d'autres États conservateurs qui ne font rien. Tu as des États démocrates qui avancent très très vite. Donc un État comme le Texas peut aussi demain montrer un exemple au Nouveau-Mexique, à la Floride. Et il y a des choses qui peuvent avancer comme ça par vagues.
Et cette avancée dans le renouvelable a aussi un impact sur le secteur du pétrole. Bradley Richards est directeur associé au sein du cabinet d'avocats Haynes Boones, qui conseille et défend les entreprises dans l'énergie fossile. Et pourtant, sa maison à Houston est alimentée à 100% par l'énergie éolienne. Et il ne compte pas s'arrêter là.
J'étudie actuellement la possibilité d'acheter une voiture électrique, car c'est tellement peu rentable de ne pas avoir de moteur électrique quand on ne fait que des petits trajets. Et c'est le genre de considération qui va faire évoluer les mentalités au fil du temps, j'en suis certain. Maintenant, comment cela se répercute-t-il sur l'industrie du pétrole et du gaz? Je pense que l'industrie sait qu'avec le temps, il y aura une transition énergétique. Mais la plupart d'entre nous qui conseillons l'industrie pétrolière ne pensent pas qu'elle va disparaître. Vous ne pouvez pas utiliser de l'énergie verte pour fabriquer le plastique que l'on met dans votre ordinateur. Ça ne marchera pas. Nous avons beaucoup de produits, parfois même des aliments ou des produits vestimentaires qui dépendent de cette industrie. La chose intelligente à faire est de changer pour que nous n'utilisions plus cette ressource très précieuse pour des choses que nous brûlons rapidement et pour lesquelles elle n'est pas efficace ou qui crée beaucoup de gaz à effet de serre. Mais je pense que nous pouvons et que nous devons continuer à produire du pétrole parce que nous en avons besoin dans une société moderne. Nous devons simplement le faire de manière responsable.
Selon Bradley Richards, l'industrie pétrolière craint cependant un impact négatif du Green New Deal si Joe Biden est élu, dont une potentielle taxe carbone. L'industrie aime par contre l'allègement des réglementations mises en place par l'administration de Donald Trump, mais sa volonté de maintenir un prix du pétrole bas, qui avantage les autres industries et les consommateurs, soulève les craintes de ceux qui travaillent dans le pétrole. Ed Hirsch est professeur à l'université de Houston et spécialiste du marché de l'énergie.
On s'attend à ce que Trump continue à exiger des prix bas pour le pétrole. L'Arabie Saoudite et la Russie ont accéder à cette demande. Mais si Biden gagne l'élection, je ne sais pas si les Russes ou les Saoudiens se sentiront obligés de continuer à faire baisser les prix du pétrole. Je ne pense pas que l'industrie soit alignée pour l'un ou pour l'autre. L'industrie est terrifiée et courbe l'échine en essayant de survivre.
Il faut dire que le prix du baril du Texas, qui était à 61 dollars en décembre 2019, vaut aujourd'hui quasiment moitié moins. Thomas Harms, Houston, RFI.
Le Covid-19 a rime qui domine les titres de la presse canadienne, surtout francophone, avec de nouvelles mesures de restriction mises en place.
Oui, car le nombre de nouveaux cas de coronavirus continue d'augmenter au Canada et la situation est jugée critique au Québec, la province la plus durement touchée, où le gouvernement a décidé de fermer bars, restaurants, cinémas et musées. Les soirées entre amis à la maison seront aussi interdites. Mais comment vérifier ces consignes? Eh bien, la police a-t-elle le droit d'ordonner une perquisition express pour entrer dans une maison où se tiendrait un rassemblement interdit? Et la réponse est oui, Anne, mais donc c'est juridiquement possible, mais les policiers hésitent à en faire usage, écrit le journal Le Devoir. Selon la Fédération des policiers municipaux au Québec, il faut préserver ce qu'ils appellent la confiance du public. L'inviolabilité du domicile est un droit fondamental, selon cette fédération citée par Le Devoir. Et il sera donc délicat pour les policiers d'intervenir, même s'ils ont justement ce fameux mandat express.
Merci beaucoup à Rim Lipold pour cette revue de presse des Amériques. Et on reste au Canada où la guerre du homard pourrait bien avoir lieu en Nouvelle-Écosse, dans l'est du pays. À la mi-septembre, des pêcheurs de la communauté autochtone Mi'kmaq ont décidé d'installer quelques centaines de casiers en mer, alors qu'officiellement la saison est terminée. Les autres pêcheurs ont vu rouge et vandalisé certaines de leurs installations. Depuis, la situation s'est un peu améliorée et le ministère des Pêches a entamé des négociations avec les Mi'kmaq. Les explications de Pascal Guéricola.
Des câbles de casiers de homards sectionnés, des voitures vandalisées, des bateaux encerclés, la pêche aux homards dans la baie de Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse n'avait rien d'une balade tranquille à la mi-septembre. Sur place, les pêcheurs non autochtones, qui ne pouvaient plus sortir leurs bateaux de pêche car la saison était terminée, refusaient de voir leurs confrères autochtones Mi'kmaq reprendre la mer. Pourtant, la Cour suprême leur a donné le droit de pratiquer une pêche de subsistance dès 1999, à l'issue justement d'un autre conflit sur les quais de pêche. Sauf que depuis, le ministère des Pêches n'a jamais entamé de négociations pour concrétiser cette activité. Les explications du professeur de droit Wayne McKay de l'Université de Dalhousie en Nouvelle-Écosse.
Depuis 21 ans, rien n'a été fait pour mettre en place des procédures de régulation. Voilà pourquoi la communauté des Sebaganagedi ont décidé qu'ils en avaient assez et qu'ils exerçaient leurs droits ancestraux découlant des traités de gouvernement autonomes pour organiser leur propre pêcherie. Les pêcheurs non autochtones s'y sont opposés. Ils ont dit, entre autres, que les Premières Nations n'avaient pas le droit de pêcher quand la saison était terminée et que eux-mêmes ne pouvaient plus pêcher. Le partage de cette ressource avec les autochtones pose encore problème. Il existe encore des incompréhensions, voire même un certain racisme, qu'il soit intentionnel ou non, sans parler des stéréotypes qui ont toujours la vie dure. La pêche au homard est très lucrative et les gens n'ont pas envie que d'autres y participent et brouillent les cartes.
Pourtant, les prises effectuées par les Mi'kmaq restent très modestes, environ 5% par rapport au volume total récolté pour cette espèce. Pêcheur Mi'kmaq lui-même, Curtis Bratibog, souligne l'importance de cette activité pour sa communauté.
Un grand nombre des membres de notre communauté vivent sous le seuil de pauvreté. Voilà pourquoi nous avons besoin de contrôler et de réguler nos propres pêcheries. Cela permet de mettre des gens au travail, pas seulement directement en pêchant, mais aussi en occupant des emplois reliés aux mesures de conservation. Nous, les Premières Nations, nous ne devons pas être vus comme des adversaires, mais plutôt comme des partenaires. Nous pouvons apporter beaucoup à l'industrie de la pêche. Nous sommes ici et nous n'allons pas partir. Nous tendons la main à nos partenaires pour travailler ensemble et tout le monde sera gagnant en définitive.
James Baptiste fait partie des nouvelles figures publiques des Mi'kmaq. Il siège comme député au Parlement canadien.
L'opinion publique a changé. Les gens comprennent mieux la signification des traités. Aujourd'hui, le Sénat compte 2 Mi'kmaq et un député Mi'kmaq siège au Parlement. Ils peuvent aider et expliquer la jurisprudence, la façon de voir des Mi'kmaq. Nous parlons aussi avec l'industrie de la pêche, avec le ministère des Pêches chargé des négociations, mais aussi avec les dirigeants Mi'kmaq. Le but, c'est de trouver une solution commune. Déjà, après une journée de discussion avec beaucoup de personnes, nous avons déjà pu envisager plusieurs options que nous avons présentées au gouvernement aujourd'hui.
Les négociations doivent reprendre lundi entre le ministère des Pêches et les Micmac, en espérant que tous puissent s'entendre sur la signification d'une pêche de subsistance telle que définie par les traités. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
L'actualité des Outre-mer, à présent avec le journal La Première, présenté par Tiziana Maron. Bonjour Tiziana.
Bonjour Anne.
À la une, une rentrée universitaire difficile en Martinique du fait de l'épidémie de Covid-19.
Oui Anne, les étudiants se plaignent de l'absence de mesures d'hygiène en cette période de crise sanitaire. Hier matin, un mouvement de colère s'est déclenché sur le campus de Schœlcher. Les étudiants ont refusé d'assister aux cours pour dénoncer le manque de propreté dans les salles.
On étudie vraiment dans des conditions déplorables. Les salles, elles sont complètement insalubres. Les sanitaires, pareil. On n'a pas de femmes de ménage depuis le début de l'année scolaire. Donc, on retrouve des masques par terre, des lingettes. Les tables ne sont pas nettoyées.
Nous sommes dans une salle avec une capacité à la base de 54 personnes. Sauf qu'en troisième année, nous sommes 70 au minimum. Donc, dès qu'on arrive tous les matins, c'est le même problème. Il n'y a pas de table. Il n'y a pas de chaise. C'est insalubre, mais franchement, c'est pas possible. On a peur de mettre nos sacs à terre et on est obligé de courir dans tout l'établissement pour trouver, en fait, de quoi s'installer pour travailler.
Des propos recueillis par Stéphane Petitfrère de Martinique La Première. La Martinique en proie à une double épidémie avec une circulation importante de la dengue et ce sont les plus jeunes qui sont les plus touchés. 120 consultations par jour en ce moment au service de pédiatrie de l'hôpital contre 80 durant le reste de l'année. Le docteur Yves Ahuel, chef du service pédiatrie au micro Martinique La Première.
Les populations jeunes, surtout nées après 2010, sont généralement pas immunisées, donc sont plus à risque de faire des dengues, puisqu'elles en ont rencontré assez peu. Ça a circulé, on a eu une petite épidémie en 2013, mais la dengue a peu circulé depuis 2010. On est un peu tout le temps à 90-100% depuis un mois. On est au maximum des capacités. Donc on réfléchit à la direction, si ça devait continuer comme ça, sur la possibilité d'ouvrir quelques lits supplémentaires, la difficulté étant d'avoir des infirmières dans une situation locale et nationale que vous connaissez.
La crise sanitaire n'aura pas empêché la rentrée des ateliers de cirque dans la commune de Mana en Guyane, mis en place depuis l'année dernière dans une ancienne léproserie à l'abandon. Ces ateliers permettent aux jeunes des environs qui n'ont pas beaucoup d'activités à leur disposition de s'initier au jeu du cirque. Cynthia, l'animatrice des ateliers, répond à Pierre Tréfou de Guyane La Première.
C'est le tout premier cours, c'est un peu compliqué avec le corona, il faut il y a le masque pour moi, pas pour les enfants, du coup c'est une approche différente. Il faut désinfecter le matériel, donc voilà, j'initie un peu les enfants à ça aussi. À la fin de son activité, on désinfecte le matériel, on garde son matériel pour soi et voilà.
J'aime beaucoup le cirque, j'aimerais devenir magicienne, des trucs comme ça, mais le cirque c'est mon truc.
Et le cirque qui suscite des passions en Guyane, et c'est la fin de cette édition.
Merci à vous Tiziana Maron. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi 15h10, heure de Paris, 9h10, heure de Port-au-Prince.
RFI, la sélection du mois.
Passer les frontières en marchant la nuit.
Charlie Couture.
Et là-bas, il était venu ici. Il avait pas eu de chance, c'était ça ou rien. Y'a des gars qui ont pas de chance et qui sont nés trop loin.
Eloy.
Protagi.
Like royalty, royalty. Hey. If I make it in a law, if I don't believe in like royalty.
Rufus Wainwright. Lucky Day et Chronix.
RFI.